Bonjour à toutes. Donc, Béatrice M'Salem et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour cet atelier, cette table ronde, qui a pour intitulé « Comment faciliter le recours au secteur protégé et adapté et ajuster les processus ». Donc, en introduction, je commencerai par le fait qu'aujourd'hui, il existe toujours des préjugés persistants sur le recours aux entreprises adaptées et aux ESAT. Sur lequel on n'arrive pas forcément toujours, sur lesquels on lutte au quotidien, que ce soit le GESAT ou que ce soit l'UNEA, mais sur lesquels il reste toujours très très ancré, hein, notamment que nous sommes des entreprises de petits boulots, qu'on réalise parfois de la concurrence déloyale ou que nous avons des prix trop élevés. Donc l'objectif de l'atelier, c'est de vous démontrer en fait que ces préjugés-là sont pas du tout véridiques et qu'en fait il existe beaucoup de possibilités pour entretenir une relation commerciale entre les entreprises du secteur adapté et protégé et les entreprises classiques. Ce qu'il faut surtout comprendre et ce que l'on veut surtout faire passer comme message, c'est que le fournisseur, entreprise adaptée ou ESAT, doit être jugé comme n'importe quel autre fournisseur, c'est-à-dire sur le triptyque qualité, prix, délai, comme n'importe quel autre fournisseur. Il n'est pas du tout question de faire un achat de bienveillance, mais vous faites un achat comme vous faites un achat auprès de n'importe quel autre fournisseur. Donc vous allez le juger sur sa réactivité, vous allez le juger sur sa compétitivité en termes de prix, et vous allez le juger sur la qualité de la prestation et des services qu'il va pouvoir vous réaliser. Donc les principaux conseils que l'on peut donner, hein, c'est d'être attentif dans la relation avec le secteur adapté, d'être attentif à la part main-d'œuvre de l'activité qui est confiée ou qui est achetée auprès du secteur. Bien entendu, c'est cette part main-d'œuvre qui sera valorisée dans les équivalences d'emploi qui vous seront fournies par les établissements en fin d'année. Donc plus la part main-d'œuvre sera importante, plus les équivalences d'emploi, donc les unités bénéficiaires que vous récupérez en fin d'année avec les prestations que vous aurez réalisées avec les entreprises adaptées, plus ces équivalences d'emploi seront importantes. Donc, vous devez également exiger une qualité de prestation identique à n'importe quel autre fournisseur. Ce n'est pas parce que vous avez un achat auprès d'une entreprise adaptée ou d'un ESAT que la prestation doit être de sous-qualité. Vous devez exiger la même qualité, mais ne pas tomber dans le piège d'exiger de la surqualité qui parfois coûte cher et qui n'apporte rien à la prestation au final que vous voulez acheter auprès des structures. Bien sûr, d'exiger qu'elle soit positionnée sur le prix du marché. L'entreprise adaptée et les ESAT doivent être positionnées sur un prix du marché, elles doivent être compétitives, et c'est vraiment un point très très important. Et le dernier conseil que l'on peut donner, c'est d'essayer de vouloir construire des partenariats et des prestations pérennes, pas vouloir systématiquement faire des opérations one-shot, mais essayer de construire quelque chose dans la durée, dans le temps, qui peut se répéter ou qui peut se construire différemment et s'aménager différemment pour que la relation et le partenariat puissent durer. Au niveau des réflexes à développer dans la démarche d'achat, je dirais qu'il faut dès le départ intégrer une réflexion handicap dans la politique d'achat. Si vous arrivez à intégrer cette réflexion dès le départ, ça facilite bien sûr tout le processus d'achat, d'identification des structures sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Et c'est vraiment très très important de pouvoir l'anticiper, de pouvoir le travailler en amont. Un réflexe aussi est peut-être d'allotir ou de dimensionner le marché au regard des possibilités du secteur. Il faut avoir en tête les tailles moyennes des entreprises adaptées et des ESAT pour pouvoir dimensionner également les marchés sur lesquels vous voulez sous-traiter auprès du secteur. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'encourager la constitution de groupements momentanés d'entreprises entre les entreprises adaptées et les ESAT eux-mêmes pour répondre ensemble à des marchés pour traiter un volume qui parfois peut être trop important pour une seule structure, mais qui à plusieurs permet de pouvoir avoir une réponse satisfaisante et qui permet aussi parfois d'avoir des réponses satisfaisantes sur des couvertures géographiques. Vous avez parfois des opérations qui se dupliquent d'un territoire sur l'autre, et encourager les structures à se constituer en GME est facilitant. Mais également, ce que vous pouvez encourager, ce qui se développe également aujourd'hui énormément, c'est encourager la co-traitance avec les entreprises ordinaires, les entreprises classiques, où aujourd'hui, en co-traitance de spécificités ou de métiers, vous arrivez à construire des partenariats qui sont très très intéressants et qui peuvent permettre d'accéder à des métiers auxquels vous ne pensez pas. Ce matin, en première table ronde, on présentait les innovations du secteur et on a vu des métiers qui n'étaient pas forcément auxquels toutes les structures ne pensaient pas forcément. Aujourd'hui, dans les métiers du numérique, nous avons de plus en plus de structures qui se positionnent, dans les métiers du transport, dans les métiers de l'événementiel, de la communication. Donc, les entreprises adaptées et les ESAT sont souvent vues comme des prestataires de services dans des activités traditionnelles que sont les espaces verts, que sont la blanchisserie, que sont le conditionnement. Elles ont des capacités à innover en termes d'activités qui sont vraiment très très importantes. Donc, et elles arrivent à le faire également parce qu'elles arrivent à s'appuyer sur des entreprises ordinaires qui leur font confiance et qui leur facilitent ainsi l'accès à des marchés auxquels elles n'auraient pas accédé seules. Donc je vais laisser la parole à Béatrice.
Donc on va, merci Sébastien, et pour illustrer de façon très concrète comment tous les conseils et les réflexes que Sébastien vient de vous présenter, comment ils peuvent et ont été mis en œuvre de façon différente, ça va être l'objet de toutes les interventions. Et dans un premier temps, un premier témoignage avec Sabria Belghiti-Alaoui. Sabria, vous êtes acheteuse au département achat opérationnel de la direction achat approvisionnement logistique de GRT Gaz, et vous avez signé votre premier accord handicap en 2010 avec un objectif ambitieux, celui d'atteindre 1 million d'euros d'achat à fin 2015. Et finalement, vous avez largement dépassé cet objectif puisque vous affichez à fin 2015 1,25 million, donc 25% de plus. Donc, qui ont été commandés aux ESAT et aux EA. Donc, pouvez-vous nous dire quelle stratégie vous avez déployée pour atteindre et dépasser largement cet objectif ?
Bonjour. La façon dont on a fonctionné à GRT Gaz, c'est vraiment étape par étape, en mettant en place chaque année des actions concrètes, ciblées, adaptées à notre niveau de maturité sur le sujet. On a commencé bien sûr avec la formation et la sensibilisation de l'ensemble de nos collaborateurs, mais aussi surtout l'intégration pour la première fois d'objectifs chiffrés sur le sujet dans les contrats d'objectifs à la fois de la direction des achats et de la direction des ressources humaines. On a continué avec l'identification des segments d'achat qui est présenté des opportunités parmi toute la segmentation d'achat de l'entreprise. Avant d'intégrer des objectifs en termes de recours au secteur directement dans les stratégies d'achat de segments, donc à moyen terme, puis ensuite de les découler dans les différents marchés. Et enfin, en ce moment, on est un peu dans une phase de consolidation de notre démarche avec typiquement l'organisation de trophées internes, donc les trophées en vie achat de l'entreprise qui permettent de valoriser des initiatives et aussi des actions de communication portées de façon plus transverse par d'autres directions que l'ARH ou les achats. Comme récemment, 10 000 euros de dons à des ESAT et des EA qui ont été faits dans le cadre du challenge sécurité partagée de l'entreprise. Toutes nos démarches très volontaristes sur le sujet, elles ont débuté en 2012-2013 lors de la création du second accord handicap de GRT Gaz et à une époque où les achats au secteur représentaient environ 500 000 euros et des dépenses surtout très ponctuelles et très locales. À ce moment-là, ce qui a joué un rôle clé aussi dans le lancement de notre dynamique, c'est le partenariat qu'on a créé en 2013 avec le GESAT, qui nous a permis d'aller plus loin, non seulement dans la formation et la sensibilisation de nos collaborateurs, mais aussi dans l'audit, l'analyse des pratiques déjà existantes dans notre entreprise et surtout le partage des bonnes pratiques et des réussites avec, avec d'autres donneurs d'ordre. Je pense un élément clé aussi de notre succès, c'est le binôme qui s'est mis en place entre la mission handicap côté DRH et des interlocuteurs côté direction des achats. Donc c'est un binôme qui s'est vraiment consolidé au fil du temps et qui permet vraiment à deux entités complémentaires de mieux avancer. Donc on a la mission handicap qui nous apporte son expertise sur la thématique de l'emploi des personnes handicapées et surtout son ancrage territorial et métier via les correspondants du réseau handicap qui sont présents dans chaque entité de l'entreprise. Et de l'autre côté, on a les achats qui apportent vraiment un regard plus méthodique sur les achats et une vision d'ensemble sur les achats et les achats responsables de l'entreprise. Et puis aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est une dynamique qui fonctionne bien. On le voit parce que la DRH et la direction des achats continuent d'affirmer leur volonté de mener des actions coordonnées sur le sujet. Et on le voit aussi parce que de plus en plus, la direction des achats s'engage formellement à ce que le secteur soit intégré aux appels d'offres à chaque fois que c'est possible.
Alors, Sabria, avec et parallèlement à cette démarche affichée que vous venez de nous présenter, il y a bien évidemment la volonté de s'adapter et surtout d'adapter vos process de consultation aux entreprises adaptées et aux ESAT. Alors, parce que, en effet, on peut se poser la question du fait de votre taille, du fait de votre importance, et surtout, je dirais, de la dispersion géographique. Et vous nous expliquerez la répartition. Déployer un marché sur l'ensemble de vos sites était très certainement une gageure importante, énorme. Et pourtant, vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé, par exemple, sur des prestations de blanchisserie. Alors, expliquez-nous, parce que je pense qu'il y a un grand nombre d'entreprises ici présentes ou ailleurs, en tout cas des donneurs d'ordre, qui sont très souvent confrontés à cette problématique de la répartition et de l'étalement géographique de leur structure pour essayer d'avoir un seul marché. Donc, comment y êtes-vous arrivé ?
Donc, effectivement, on est une entreprise vraiment essaimée dans toute la France avec plus d'une centaine de sites. Récemment, on a lancé une consultation, enfin courant 2015, on a lancé une consultation pour des prestations de nettoyage de nos vêtements images de marque. La consultation devait répondre aux besoins de 132 sites répartis dans toute la France. Effectivement, face à la grandeur du besoin, parfois les prescripteurs sont un peu frileux quant au déploiement d'un tel marché à l'échelle nationale. L'argument qu'on a utilisé donc, pour réussir à convaincre les prescripteurs de confier ces prestations au secteur protégé et adapté, c'est qu'on leur a proposé en fait, de mettre en place une période de test. Donc, un test qui a duré 6 mois, qui a permis de lancer les prestations auprès d'une quinzaine d'établissements. On a fait attention mener ce test dans les différentes régions parce que, grosso modo, l'entreprise Gertegaz est répartie sur 4 grands territoires qui couvrent les 3/4 de la France. On a confié la prestation test à au moins 3 établissements du secteur protégé adapté sur chaque région. Sur une période de 6 mois, à la fin de laquelle on a pris grand soin de collecter le retour d'expérience et de l'analyser. Donc on a analysé la qualité des prestations, la disponibilité de l'ESAT ou de l'EA, le respect du cahier des charges, la réactivité en cas d'imprévu, vraiment tous les aspects de la prestation. Donc au final, il s'est avéré que les prestations étaient très appréciées par l'ensemble des porteurs. Il y avait plus d'une centaine de porteurs concernés par ce test. Et les conclusions très positives du retour d'expérience ont permis de décider une fois pour toutes les prescripteurs et les décideurs d'achat. Et on a pu déployer cette expérience au niveau national sans même mettre en concurrence avec le secteur ordinaire. Donc, face au grand nombre de sites concernés par cette consultation, on s'est aussi appuyé sur le module d'appel d'offres du GESAT pour réaliser un sourcing plus ciblé et pour identifier vraiment rapidement des établissements qui étaient en mesure de répondre à notre besoin et qui souhaitaient répondre à notre besoin parce que c'est très important de gagner du temps dans ce type d'appel d'offres qui est très chronophage. Donc on s'est aidé du GESAT qui nous avait déjà accompagné dans la construction du test. Et puis, enfin, on a mené la consultation. Bon, malheureusement, la consultation n'a pas permis de trouver preneur pour l'ensemble des sites concernés par le besoin. On a attribué quand même 79 sites sur les 132 prévus initialement. On s'est retrouvé dans une situation où on devait décider si on attendait en fait de réussir à couvrir l'ensemble du besoin avant d'attribuer, ou si, tant pis, on attribuait déjà une première partie qui était très satisfaisante. Et on s'est rendu compte que c'était aussi intéressant de parfois revoir son objectif initial à la baisse pour pouvoir concrétiser une première réussite et couvrir l'ensemble du besoin dans un second temps. Donc la leçon qu'on peut tirer de cet appel d'offres particulier, c'est qu'il vaut parfois mieux la peine de passer vraiment plus de temps à la mise en œuvre du marché et au démarrage de la prestation pour développer toujours plus ses achats auprès du secteur protégé.
Oui, merci Sabria, parce que là vous insistez sur un point que nous ne cessons de mettre en avant auprès des donneurs d'ordre, qui est vraiment de combien la préparation en amont est importante pour la réussite d'un déploiement, et que, comme vous venez très bien de le dire, savoir, entre guillemets, perdre du temps, c'est forcément en gagner derrière. Dans un domaine très différent, vous avez réussi un autre challenge, qui est celui, pour le coup, d'adapter les capacités de réponse des secteurs du travail protégé et adapté aux besoins de GRT Gaz. Donnez-nous les clés de votre démarche. Comment vous avez réussi ?
Donc là, le marché auquel on pense, c'est celui de Facility Management. Donc la particularité de ce marché pour GRT Gaz, c'est qu'il s'agit en fait d'un seul marché, d'un unique marché cadre qui regroupe près d'une trentaine de lots, aussi bien tertiaires qu'industriels. Avec le nombre de sites dont je vous ai parlé, a priori, la configuration du marché et de l'appel d'offres qui allait découler éliminait les entreprises du secteur protégé et adapté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché un mode de collaboration avec le secteur protégé qui permette de répondre aux contraintes des prescripteurs sur ce marché. Donc typiquement, ne pas segmenter la prestation et continuer à travailler avec une seule entreprise, une seule grande entreprise FMR, pilote de l'ensemble de la prestation. Donc pour répondre à cette contrainte, on a décidé de travailler en co-traitance. Et pour être certain d'aboutir à une réussite et de mettre en place une co-traitance satisfaisante, on s'est fixé des lignes de conduite pour cet appel d'offres qu'on va bientôt envoyer. Donc la première chose qu'on a faite, c'est vraiment décider de cibler les lots parmi le périmètre du marché, les lots sur lesquels on allait focaliser nos efforts pour être certain, comme on en discutait, de concrétiser une première réussite qui après puisse en générer d'autres. Donc on a décidé de se focaliser uniquement sur les lots tertiaires et pas les lots industriels pour une première. Ensuite, parmi les lots tertiaires, on a identifié 4-5 lots maximum sur lesquels on comptait concrétiser des choses en 2016. Donc typiquement, les espaces verts sur lesquels on travaille déjà beaucoup, le nettoyage des locaux sur lesquels on ne travaille pas encore, les petits déménagements, éventuellement l'accueil, la décoration florale et d'autres prestations. Ensuite, on a décidé vraiment d'affirmer auprès des FMR à qui nous enverrons la consultation un engagement très fort de la part de GRT Gaz sur le sujet. Donc on va les encourager très fortement à nous remettre des offres en collaboration avec le secteur protégé et adapté en insistant sur pourquoi on fait ça. On va leur expliquer si besoin le fonctionnement du secteur protégé et adapté. On va les mettre en relation avec des entreprises du secteur protégé et adapté qu'on aura déjà pré-identifiées. On va leur proposer un accompagnement pour la rédaction de leurs propositions et éventuellement la recherche d'autres prestataires si ceux qu'on a identifiés ne leur conviennent pas. Et puis on va vraiment tâcher de bien cadrer contractuellement tout ça en passant du temps à identifier tous les risques liés à cette co-traitance et à bien cadrer les prestations, le périmètre et les responsabilités de chacun. Puis un autre élément qui est vraiment important sur ce type de marché, donc sur ces prestations qui sont très exposées un peu aux irritants de chacun, de chaque collaborateur de l'entreprise, c'est que sans réelle surprise sur le facility management, on a un peu de peur et de frilosité de la part des prescripteurs. Et là, ce qui a joué vraiment un rôle clé dans la prise de décision et le fait qu'on va dérouler cette co-traitance, qu'on va passer cette prestation auprès du secteur protégé, c'est l'anticipation de la date de renouvellement de ce marché et l'intégration de cet objectif dès l'étape de la stratégie d'achat du segment en amont des marchés qui sont passés ensuite. La décision ayant été prise dès fin 2014, la direction des achats a pu affirmer sa volonté face à des prescripteurs et décréter qu'il en serait ainsi.
Donc voilà un bel exemple où la fermeté peut aller dans le bon sens. Merci Sabria pour ces exemples très très concrets que vous nous avez apportés. Et il y a beaucoup à pouvoir en sortir, et ce que Sabria vient de présenter est vraiment duplicable et vraiment reproductible dans plein d'autres, enfin dans des entreprises qui ont des secteurs d'activité très différents. On va maintenant passer à un autre type d'exemple et découvrir quel autre type de démarche il peut être enclenché pour faciliter le recours au secteur protégé et adapté. Martine Tukakovic, vous êtes responsable des achats solidaires à la SNCF. Alors, on pourrait croire que l'accompagnement des structures pour une montée en compétences, que l'adaptation des processus achats sont des axes non envisageables, car non réalistes, dans une entreprise d'une taille comme la vôtre. Mais pourtant, alors, expliquez-nous comment vous y êtes arrivé.
Bonjour à tous. SNCF a mis en place, je dirais, une politique achat solidaire, mais une politique d'achat RSE plus particulièrement, donc depuis 2008, avec une équipe dédiée sur cette thématique, et surtout un réseau avec un maillage complètement territorial. Voilà, donc les actions concrètes pour ce démarrage, ça a été de mettre en place, bien évidemment, je dirais, des formations, tout comme GRT à gaz, puisque formation, sensibilisation. Nous avons également mis en place donc des objectifs. Donc chacune des entités achats est objectivée sur des achats solidaires. Bien évidemment, du reporting et puis surtout du pilotage, puisque c'est un sujet sur lequel il y a besoin d'avoir un suivi régulier. Voilà. Également, des partenariats ont été mis en place, puisque bon, SNCF, une grande maison avec effectivement plein d'établissements, donc vraiment un grand maillage territorial. Donc là, des partenariats donc avec, bien évidemment, donc UNEA, avec le GESAT, également en déco, pour nous permettre justement de progresser, j'irais, sur cette thématique d'achat auprès du secteur protégé adapté, avec du sourcing, avec effectivement des formations, des sensibilisations, des partenaires, puisqu'effectivement il y a bien des échanges de bonnes pratiques, et c'est ce qui permet effectivement à chacun de pouvoir évoluer au niveau des achats solidaires. Voilà, et j'irais, l'outil magique qui fait développer les achats, c'est bien évidemment des visites d'entreprise, puisque quand un acheteur va visiter une entreprise, ben, il se rend compte tout de suite qu'il y a des compétences et qu'il n'y a pas des UB simplement au bout, mais qu'il y a vraiment de vraies compétences. Donc des visites d'entreprise, c'est effectivement un outil qui est utilisé à SNCF, et également des forums, puisque comme je le disais, nous avons effectivement un maillage territorial, donc chacune des entités achats qui sont dans les régions organise des forums pour faire connaître le secteur protégé adapté à ses acheteurs. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que depuis 2008, nous avons quand même quadruplé notre chiffre auprès du secteur protégé adapté, et également les chiffres, puisqu'on est sur un global achat solidaire avec l'insertion et la clause d'insertion. Donc, sur les achats solidaires, secteur protégé adapté, nous avons atteint un peu plus de 13 millions d'achats contre un peu plus de 2 millions en 2008. Donc, voilà, de belles réalisations. Et bien évidemment, des familles d'achats ou des segments d'achats qui sont venus au fur et à mesure, du démarrage de cette politique. Donc, pour faire progresser effectivement nos achats, il a fallu bien évidemment identifier des segments d'achats, tout comme GRT Gaz le disait tout à l'heure, vraiment les achats sur lesquels on va trouver les compétences auprès du secteur, et surtout des achats qui vont être au-delà, des prestations classiques que l'on connaît, comme le conditionnement, comme de l'espace vert. Aujourd'hui, on a dépassé ces segments d'achat, puisqu'on est aussi bien sur l'industrie, de la prestation, d'imprimerie, également tout ce qui est aujourd'hui, donc on est sur du tertiaire, on est sur de l'industriel, on a un petit peu tout, et je vous développerai un petit peu les familles d'achat sur lesquelles nous travaillons. Également, pour développer, le secteur, nous avons mis en place un mécénat de compétences. Donc moi, je suis marraine aujourd'hui de l'UNEA, puisque UNEA a signé une convention avec SNCF en juillet 2013, avec donc un accompagnement, pour ma part, du secteur protégé adapté. Donc ce sont des sessions qui sont organisées par UNEA et au cours desquelles j'exprime et j'explique à ces entreprises comment demain elles peuvent intégrer la SNCF, sur quelle typologie d'achat, pourquoi pas un GME, puisque bien évidemment, grâce à un GME, chacun va pouvoir avoir une part du gâteau plutôt que de rien avoir, parce qu'effectivement les volumétries sont importantes. Donc à ce jour, on a organisé à peu près 5 sessions sur le territoire national. Une prochaine session sera faite dans le 93, puisque SNCF s'est implanté largement dans le 93. Donc, il est bien évident qu'il va falloir aussi faire intégrer ces entreprises du 93 au sein de nos panels fournisseurs. Voilà. Conduire effectivement le changement, essayer de trouver de nouvelles postures au niveau de nos acheteurs pour continuer encore une fois à faire progresser et puis surtout d'atteindre justement un objectif ambitieux, puisque nous avons un objectif, je dirais, de 50 millions d'ici 2017 en achats solidaires. Hein, j'inclus encore une fois l'insertion. Et tout ça est intégré dans un programme. Nous avons un programme Impulsia qui comprend 4 axes, dont un axe qui est plus de responsabilité et qui va effectivement nous permettre, je dirais, de mettre en place et d'atteindre ces objectifs ambitieux.
Alors Martine, c'est bien tout ça. Donc, vous avez des objectifs très ambitieux, mais pour pouvoir les atteindre, ça va forcément de pair avec trouver de nouveaux fournisseurs. Or, la tendance aujourd'hui, hein, on le sait bien, va plutôt au fait de limiter le nombre de fournisseurs et de rester dans des accords cadres. Et alors vous avez réussi quelque chose d'assez original, puisque l'an dernier, vous avez réussi à retourner cette contrainte en avantage pour les achats solidaires. Comment vous avez fait ?
Alors, il est vrai que dans des directions d'achat, eh bien, malheureusement, on a souvent des objectifs contradictoires. Donc, comme toute grande entreprise, optimisation du panel fournisseur, mise en place de contrats cadres, des indicateurs, bien évidemment, de taux d'accord cadre que nous avons également à la SNCF. Mais je dirais, pour faire progresser mes achats auprès du secteur, si tout le monde utilise des contrats cadres et que des contrats cadres hors secteur protégé adapté, je vais avoir beaucoup de mal à progresser. Donc du coup, nous avons, travaillé et eu surtout une validation auprès de notre CODIR achat pour valider que les achats auprès du secteur protégé adapté et l'insertion puissent être réalisés hors contrat cadre et ne viendrait pas péjorer, mais au contraire, permettrait justement d'augmenter cet indicateur de taux d'accord cadre. De plus, ça va également, permettre, puisque comme encore une fois, nous sommes essaimés, tout le tout le territoire, ça va aussi permettre d'avoir des achats locaux, des achats vraiment avec un ancrage territorial pour SNCF. Voilà, donc on a cette possibilité aujourd'hui d'être hors contrat cadre et de passer des commandes en dehors de ces contrats.
Alors, vous avez eu également une démarche originale pour faire tomber les préjugés sur le travail protégé et adapté, qui est celle d'évaluer les ESAT et les EA comme n'importe quelle entreprise. Ça va exactement avec ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est-à-dire que les ESAT et les EA doivent être considérés comme n'importe quel autre fournisseur. Vous vous êtes saisi effectivement de cette démarche et vous les avez justement inclus dans une démarche EcoVadis, comme n'importe quel autre fournisseur. Alors, quels sont les résultats ?
Alors, aujourd'hui, effectivement, cette démarche EcoVadis, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, transparence des pratiques durables et RSE de nos fournisseurs. L'objectif, c'est bien évidemment de maîtriser les risques environnementaux et sociaux que nos fournisseurs pourraient nous faire courir. Et puis, bien évidemment, c'est d'assumer aussi notre responsabilité élargie face à ces fournisseurs. Alors, l'intérêt, effectivement, d'abord pour les fournisseurs, ça va être de comprendre, d'améliorer, de communiquer et puis surtout d'actualiser un petit peu, leur notation. Ce qui est évalué au niveau, effectivement, d'EcoVadis, c'est tout l'aspect éthique, bien évidemment, la supply chain et l'environnement. Et nous avons aujourd'hui, au niveau des SNCF, il y a un peu plus de 300 fournisseurs classiques qui ont été évalués. Et moi, j'ai souhaité, il y a maintenant 3 ans, que nos fournisseurs du secteur protégé et adapté soient évalués au même titre qu'un fournisseur classique. Donc, alors, on n'est pas sur le même nombre de fournisseurs, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'SNCF, au niveau du secteur protégé adapté, a fait travailler 272 fournisseurs. Sur ces 272 fournisseurs, nous avons une quinzaine de fournisseurs qui nous font environ 50% du chiffre et deux fournisseurs qui nous font 23% de ce chiffre. Donc, on voit tout de suite, qu'au niveau de cette échelle des 80-20, on a des fournisseurs qui ne sont pas très importants en termes de chiffres. Donc c'est pour ça qu'on est allé un petit peu, en entonnoir, sur cet aspect. Et bien, on s'est rendu compte très rapidement que les évaluations, qui ont été réalisées auprès de 6 fournisseurs, que ce soit de l'industrie ou du tertiaire, ont permis effectivement d'identifier que ces fournisseurs avaient les mêmes notes, si ce n'est plus, puisque nous avons eu 2 fournisseurs qui ont atteint, puisque la note moyenne d'EcoVadis, c'est 45, et nous avons eu 2 fournisseurs à 60 et 61. Donc, ce qui permet pour nous en interne de vraiment communiquer que nos fournisseurs sont sur le même niveau et les mêmes exigences que nos fournisseurs classiques. Et ce qui permet également demain à ces fournisseurs qui ont été évalués de pouvoir communiquer auprès de leurs futurs clients de cette démarche et des compétences qui ont été mises en évidence.
Merci Martine. Et sur ce thème-là, je dirais que ça rejoint totalement aussi l'action que l'UNEA a pu mener de faire évaluer les entreprises adaptées dans leur démarche RSE. Et aujourd'hui, on constate exactement les résultats que tu mets en avant, c'est-à-dire que les entreprises adaptées ont des notations qui sont très supérieures à la moyenne de toutes les entreprises quand elles se font évaluer. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas systématiquement, mais ça montre bien également la réussite du modèle sur les trois piliers de la RSE. Sur le social, on n'en doutait pas vu notre mission, mais surtout sur le volet économique et sur le volet environnemental qui sont vraiment très très importants.
Alors, je voudrais juste rebondir sur les segments d'achat sur lesquels nous travaillons actuellement. Donc, nous travaillons beaucoup sur de la prestation de clientèle externe. Alors voilà, la carte famille nombreuse aujourd'hui est faite déjà depuis 10 ans auprès du secteur protégé adapté. Je veux dire, vos réclamations, puisque j'imagine que dans cette salle, il y a beaucoup de clients SNCF, les réclamations clients sont également traitées par le secteur protégé adapté. Nous avons initié, une prestation de transport de personnel SNCF il y a un peu plus d'un an, et c'est vraiment une prestation, remarquable et de très bonne qualité. Également de la prestation industrielle, puisque SNCF aujourd'hui a également chez beaucoup de ce type de prestations. Donc nous avons réalisé de la maintenance d'amortisseurs TGV auprès du secteur protégé adapté, de la rénovation de bâtiments, nous avons de la soudure, de la mécanique générale, etc. Enfin, on a vraiment un panel complet de prestations auprès du secteur, et maintenant on va continuer, d'essayer de développer d'autres familles d'achats, aussi bien industrielles sur la plasturgie, sur la composite, que sur la communication, l'événementiel et puis bien d'autres.
Merci. Nous allons passer maintenant à Nathalie. Nathalie, vous dirigez une entreprise adaptée dans les services tertiaires et administratifs qui est franchisée sur 17 agences sur l'ensemble du territoire. Pourriez-vous nous décrire dans un premier temps le panel des métiers et des compétences qu'en direct propose à ses clients ?
Bonjour à tous. Donc Sébastien, on a 10 minutes ensemble, c'est ça, maximum. Il faudra m'arrêter si je suis trop longue. Donc en direct, c'est une histoire qui a démarré il y a maintenant une vingtaine d'années déjà. Donc moi, je suis créatrice d'entreprise, c'est important. Donc j'ai créé mon entreprise au cinquième étage sans ascenseur, comme les aventures de création d'entreprise en fait. Et notre activité, si vous voulez, l'activité... Enfin, on a décidé, c'est une histoire d'amour aussi, je vous le dis aussi. On va résumer 20 ans, ça va être dur. Et en fait, c'est une entreprise qu'on a créée avec mon futur mari à cette époque-là. Bref, nous sommes deux gérants. Nous avons souhaité avoir des salariés handicapés dès le démarrage, tout en étant une entreprise classique. Je vous rappelle que l'entreprise adaptée en 1996, elle n'existait pas. Et alors, tout le monde va me demander pourquoi avoir embauché majoritairement des salariés handicapés. Pourquoi pas ? Nous n'avions à ce moment-là aucune raison d'employer particulièrement des salariés handicapés, mais nous en avions envie. Notre entreprise est spécialisée dans les services administratifs en B2B. Historiquement, notre premier métier, c'est le routage, c'est-à-dire l'impression et la mise sous enveloppe de documents. Alors pourquoi avoir fait du routage ? Parce qu'à chaque fois que j'allais voir un prospect, il me demandait si on en faisait. Donc un jour, vous dites, au début, j'ai dit, non, on n'en fait pas. Et puis après, j'ai dit, oui, j'en fais. Donc après, on a fait des essais dans notre salon. Enfin bref, aujourd'hui, c'est une activité qui marche très, très bien. Évidemment, autour du routage, on fait des travaux de saisie. Donc saisie de tout ce que vous pouvez imaginer, saisie, opérations téléphoniques, gestion de fichiers. Et effectivement, on va en parler, pas mal d'opérations sur mesure, comme vous le voyez sur le graphique que vous voyez là. On a décidé de franchiser notre activité. Et aujourd'hui, nous sommes un réseau de 17 agences en France. Et vous avez la chance, d'ailleurs, dans la salle, d'avoir notre franchisé de Normandie. Donc s'il y a des Normands, n'hésitez pas à l'interroger. Merci. Et effectivement, nous avons été vers des activités, et on va en parler un petit peu plus, des activités vraiment que nous ont demandé nos clients, en fait. Étant créatrice d'entreprise, j'aime bien les nouvelles idées. Et du coup, nous sommes évidemment à l'affût de ce que peuvent nous proposer nos clients.
Justement, Nathalie, la satisfaction et l'écoute client est au cœur de vos préoccupations En tant qu'entreprise, vous êtes certifié ISO 9001. Cela vous a amené à développer des services innovants également pour les entreprises soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Vous leur proposez notamment de gérer la centralisation des attestations d'équivalence d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en dire un peu plus sur ce service ?
Alors, je vais faire attention à ce que je dis, parce que j'ai quand même trois clients à la table. Donc, je vais faire attention de ne pas dire de bêtises. Effectivement, nous avons été interrogés en fait, au départ par, il y a 4 ans. C'est la 4e année en fait, que nous nous occupons de quoi ? Nous avons des clients qui nous demandent de centraliser les fameuses attestations d'unité bénéficiaire que doivent vous remettre les EA et ESAT entre le 15 janvier et le 15 février. Voilà. Donc ça, c'est notre activité. Et effectivement, on s'est rendu compte, en fait, c'est la Poste qui nous l'a demandé au départ, et on s'est rendu compte que chez les très grosses entreprises, mais pas seulement, c'était extrêmement dur. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est au carrefour de plusieurs services en interne, c'est au carrefour des ressources humaines, c'est au carrefour des services achats, c'est également au carrefour de la direction financière. Souvent, ben en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des entreprises qui ont pas mal de filiales, qui ont aussi, par exemple, des chargés de mission handicap. Alors, les attestations, elles reviennent souvent à l'adresse de facturation. Et donc, effectivement, là, il y a une complexité souvent en interne voilà, qui nous a poussé à proposer ce service. Et puis, il y a également cette difficulté que c'est très temporaire. Et donc, il faut du temps et il faut être efficace pour faire cette activité. Okay, après, je vous dirai comment on fait.
Monsieur Hernandez, justement, en direct, réalise cette prestation pour le groupe La Poste. Pourriez-vous nous indiquer en quoi cette prestation est justement stratégique pour votre groupe et quels sont les résultats donnés ? Est-ce que ça vous a amélioré la centralisation et la centralisation et la comptabilisation de vos équivalences d'emploi ?
Bonjour à tous et à toutes. Alors, en fait, nous sommes passés, La Poste, bon, un petit historique, nous sommes passés Société Anonyme en 2010. Le fait de passer Société Anonyme, avant, nous étions soumis au FIP, on est passé à la GFIP. Donc la GFIP a eu la bonté de nous accorder 2 ans pour nous adapter à ce passage qui entraîne évidemment la collecte des UB. Donc, premier accord agréé en février 2012. C'est à ce moment-là que la mission handicap et la DHA avec Karine Ondé ont fait le choix, de par la complexité du groupe La Poste. Alors, quelques chiffres. C'est aujourd'hui 500 acheteurs, une multitude de donneurs d'ordre. Sur la déclaration 2015, c'est plus de 14 000 factures sur plus de 650 fournisseurs différents. Donc, pour être sûr d'avoir un maximum d'UB en fonction du chiffre d'affaires des achats réalisés auprès du secteur, on a fait le choix d'externaliser à cette époque la prestation. On a créé un cahier des charges, Karine Ondé a créé un cahier des charges avec la mission handicap et moi j'ai assuré la consultation. On a fait le choix évidemment à cette époque de réserver le marché et on a fait appel à une dizaine de sociétés pour répondre. Et à ce jour, on est très satisfait effectivement du travail effectué par la société en direct. Voilà. En quelques chiffres de progression, donc cette année, on a eu plus 28% de collecte d'UB par rapport à l'année précédente. Et sur un chiffre d'affaires, en augmentation de plus 20%. C'est 14 millions et demi hors taxes d'achat. Voilà. Donc, alors, ce que je peux dire du travail avec en direct, c'est qu'on travaille avec eux comme on travaille avec n'importe quelle société. Évidemment, la prestation au départ a fait l'objet d'aller-retour, de réunions pour cadrer tout ça. En interne, ça nécessite aussi, et je pense que c'est le succès de la réussite, le topage, toper les sociétés du secteur pour être en capacité de fournir rapidement les différents fournisseurs en début d'année en direct pour qu'elle ait le temps, elle, de réaliser cette collecte parce que la GFIP ne nous laisse pas beaucoup. Quoi, en fait. Voilà.
Merci Nathalie. Monsieur Hernandez le dit, tu le disais tout à l'heure également. Tout se fait dans un laps de temps très, très court. Vos équipes doivent donc faire preuve d'une forte adaptabilité aux besoins du client dans un laps de temps contraint par un calendrier lié à celui de la déclaration annuelle de la GFIP. Comment cela se passe-t-il au quotidien? Cela entraîne-t-il des modifications d'organisation et des adaptations d'organisation?
Alors, effectivement, le calendrier est très court. On a à la Poste, la Poste nous donne un fichier, effectivement, des EASAT avec lesquels ils ont travaillé, avec les montants d'achat dans l'année. Il y a des entreprises qui ne sont pas à ce niveau, en fait, hein, d'informations. Et donc, on a aussi des entreprises avec lesquelles on travaille en amont, c'est-à-dire qu'à partir de septembre, on commence à travailler avec eux pour voir avec eux comment identifier les EA et ZAT avec lesquels ils ont travaillé dans l'année. C'est pas si simple. Voir s'ils sont capables de nous fournir des données chiffrées. Enfin bref, il y a déjà un travail qui peut se faire en amont. Après, effectivement, on mobilise une équipe Challenge UB. À partir du mois de janvier, il faut comprendre que c'est, en général, dans les entreprises en interne, pour eux, c'est un peu le truc qui embête tout le monde. Chez nous, ils adorent ça. Parce que c'est très challengeant, en fait. C'est-à-dire que nous, c'est une activité vraiment polyvalente. On va écrire aux EA et ZAT avec lesquels a travaillé l'entreprise pour leur expliquer la méthodologie. On va mettre en place des outils de centralisation, un email, un téléphone, une adresse postale, évidemment. On va ensuite téléphoner à toutes les EA et ZAT avec lesquelles a travaillé cette entreprise. On va faire de la saisie, vérifier qu'il n'y en a pas qui se sont un peu trompés, ça arrive. On va numériser, enfin bref, c'est vraiment une activité qui engendre pas mal de polyvalence. Attention, chez nous, ce sont des agents administratifs, hein, qui travaillent. Et donc, c'est très challengeant. Et après, effectivement, le succès de l'opération, il vient aussi de cette prestation qu'on a construite au départ avec La Poste, qu'on a construite ensuite avec nos autres clients et qui nous a amené à avoir des outils informatiques. Par exemple, on a développé un intranet, hein, donc tout se fait avec un intranet. Enfin bref, on s'améliore d'année en année. Et évidemment, on s'améliore avec nos réflexions internes, mais également avec nos clients. Et nos salariés, évidemment, participent aussi à ces améliorations. Un autre exemple, aujourd'hui, on a le fichier des EASAT national, qui n'est pas le même que celui du GESAT ou du DEA, puisque nous avons un fichier, évidemment, avec l'objectif de faire cette opération, parce qu'on s'est rendu compte que chez nos clients, souvent, ils avaient des SIRET, hein, qui étaient des anciens SIRET. Hein. Et donc, du coup, on a le fichier des EASAT national avec les différents SIRET, hein, selon les années, avec l'histoire du SIRET, hein, et puis les coordonnées également de la personne en interne qui s'occupe de ces attestations. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu? Merci. Juste pour ajouter autre chose, surtout, n'hésitez pas à interroger les EA et ZAT avec lesquels vous travaillez, avec vos idées. Si vous avez des idées, vous pouvez leur confier. Ils ont un panel d'activités, mais enfin, en ce qui me concerne, moi, j'aime avoir des discussions sur certaines problématiques. Et vous le voyez au-dessus, on s'occupe maintenant également, par exemple, de gérer des amendes pour certaines entreprises. Parce que c'est un de nos clients, c'est Heineken qui nous l'a demandé. Et maintenant, on le déploie avec d'autres. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à interroger, voir ce qu'il est possible de faire et ne pas oublier que quand on est créateur d'entreprise, on est normalement un peu créatif.
Merci Nathalie, oui, et effectivement, merci beaucoup à tous nos intervenants. En synthèse, je crois que ce qu'il faudrait retenir des présentations, des témoignages qui vous ont été faits, c'est que, bien sûr, une bonne anticipation des besoins par l'entreprise, l'appui éventuel de réseaux facilitateurs, comme la capacité des entreprises adaptées et des ESAT à comprendre et à mettre en œuvre le besoin de donneurs d'ordre, permet de développer des relations et des partenariats durables. Et c'est avec de la durabilité et non pas du one-shot que l'on travaille de mieux en mieux avec les secteurs du travail protégé et adapté. Et puis surtout, retenir également que les ESAT et les EA doivent être considérés comme des fournisseurs lambda, doivent être jugés sur la qualité de leurs prestations, donc sur leur professionnalisme, sur leur compétitivité économique, donc quel positionnement ils ont sur le marché, et bien sûr sur leur réactivité. Donc voilà, je crois que ce qu'il faudrait retenir, plein d'autres choses bien évidemment, mais maintenant ben, les questions sont pour vous. Donc qui souhaite poser des questions à nos intervenants? Nous avons été tellement clairs. Ils ont été tellement clairs. Non ?
Bon. Ah. Merci beaucoup.
Oui, bonjour. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus. C'était marqué sur une des slides sur le challenge Andy. Alors, j'ai plus le nom que vous avez organisé chez GRT.
En fait, ça s'appelle le trophée Andy Achat. L'objectif, c'est de recueillir les initiatives menées par n'importe quel collaborateur de l'entreprise dans n'importe quelle entité. On a plusieurs catégories. Il y a trois catégories de trophées remis. Donc, il y en a un où on valorise l'initiative qui a permis de réaliser une performance économique. Il y a un trophée qui permet de valoriser un engagement sociétal, environnemental particulier. Et il y a un troisième trophée qui permet de valoriser l'aspect la transférabilité. Ça permet de valoriser une initiative qui pourrait vraiment être dupliquée sur un besoin plus important. Et puis après, on a aussi un coup de cœur ou coup de pouce selon les années. Donc là, on a déjà réalisé deux de ces trophées en 2014 et en 2015. Et on remet un coup de pouce ou un coup de cœur à une initiative qui nous a particulièrement plu, mais qui a encore besoin d'être retravaillée pour peut-être se représenter l'année suivante. La collaboration entre la direction des achats et la mission handicap, elle était très importante pour ce trophée en particulier, parce que ce sont les correspondants handicap de la mission handicap qui ont permis de communiquer sur l'organisation de ce trophée, de faire remonter les initiatives dans chaque région et dans chaque direction. Mais l'engagement de la direction des achats était aussi très important parce que c'était une collaboration vraiment entre ces deux directions qui était affichée et une remise des prix avec la présence du directeur général de l'entreprise, avec la présence de notre partenaire, le GESAT. Le principal intérêt de ce type d'événement, c'est de pouvoir avoir matière à communiquer pendant encore plusieurs mois après la remise des prix. Donc la remise des prix, elle a lieu lors du dernier jour de la semaine du handicap de l'entreprise. Elle a lieu au siège social, on fait venir les équipes même si elles viennent de région. On a aussi fait, c'est pas systématique, mais on a fait venir les partenaires du secteur protégé adapté qui étaient mentionnés dans les dossiers d'initiative. Et du coup, ça donne lieu aussi à des communications sur des supports, sur des kakémonos, sur des supports écrans. Enfin, on communique beaucoup là-dessus et ça permet vraiment de créer, d'aller un peu plus loin dans la culture achat de l'entreprise. Les quelques personnes, donc côté mission handicap et côté achat, donc moi-même, qui travaillent vraiment au jour le jour sur ces thématiques-là, elles peuvent s'emparer d'une initiative qui a été remise pour vraiment essayer d'aller plus loin, de trouver plus de prestataires qui peuvent répondre aux besoins, de trouver d'autres entités de l'entreprise qui pourraient être intéressées et donc d'essayer vraiment de faire grossir l'initiative qui a été présentée.
Ça permet à d'autres personnes de se désinhiber. Bon.
Bonjour. Comment est-ce qu'on encourage à la co-traitance avec des entreprises ordinaires? Comment est-ce que vous procédez? Quelles sont les expériences? Parce qu'on n'a pas grand-chose pour nous aider, mis à part notre bonne volonté.
Oui. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre complètement à cette question. C'est vrai que SNCF, c'est l'objectif 2016, c'est de pouvoir organiser un marché pilote Voilà, puisqu'en fin de compte, hein, c'est ce qu'on dit, c'est après, c'est trouver la façon d'aller essaimer une bonne pratique. Alors déjà, ce qui a été initié à SNCF, c'est une rencontre de l'ensemble de la filière informatique que nous avons mis en relation avec la direction informatique et bien évidemment les acheteurs. Maintenant, il nous manque encore les outils. SNCF n'est pas une entreprise privée, donc elle a des obligations, je dirais, sur ses procédures et ses processus achats. Nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui, comme certaines entreprises classiques, d'imposer la cotraitance. On travaille sur le sujet. Aujourd'hui, il y a des groupes de travail qui sont organisés, qui ont déjà commencé à initier cette réflexion. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque à nous, SNCF ? C'est l'outil, c'est de savoir comment est-ce que l'on va pouvoir intégrer, dans nos appels d'offres. Non pas cette obligation, mais au moins l'incitation d'expliquer qu'effectivement, SNCF, entreprise citoyenne et solidaire, se doit de ne laisser personne au bord de la route, hein, parce que le sujet c'est quand même ça, et voilà, et se dire que comment est-ce qu'on va pouvoir amener encore une fois à monter en compétence les entreprises du secteur, c'est peut-être grâce effectivement à la cotraitance. Alors peut-être que l'année prochaine on vous dira voilà, on a initié des marchés, voilà comment on s'y est pris, mais aujourd'hui non, c'est encore un petit peu au stade de réflexion de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place.
Pour compléter un peu la réponse de Martine, moi j'ai entendu qu'il y a de grands donneurs d'ordre comme Safran et Airbus qui peuvent se permettre, lors du lancement d'un appel d'offres, d'exiger dans les règles de consultation un certain pourcentage du besoin qui soit remis en cotraitance, enfin qui soit présenté lors de la remise des offres en cotraitance avec le secteur. Alors nous, on n'est pas sur les marchés publics, mais on a encore des héritages de toutes ces procédures publiques qui font qu'on ne va pas non plus pouvoir écrire noir sur blanc qu'on oblige nos prestataires du secteur ordinaire à nous répondre en cotraitance avec le STPA. Par contre, on pense que la clé, c'est la sensibilisation de nos prestataires. Et donc, c'est pour ça qu'on va insister sur l'accompagnement de ces entreprises dans leurs réponses et ne pas simplement leur balancer qu'on souhaite qu'elles travaillent en cotraitance avec le STPA et ne rien leur expliquer et simplement attendre la remise des propositions. Du coup, c'est pour ça qu'on fait tout ce travail, même si on ne va pas passer en direct avec le STPA. On fait tout un travail de recherche de benchmark, de recherche d'établissement sur les lots qu'on a identifiés pour être en mesure de présenter tout ça au FMR. Donc là, c'était l'exemple du FM. Au FMR qu'on va consulter et éventuellement d'organiser des rencontres. Donc ça peut être dans nos locaux, ça peut être directement dans les locaux des entreprises adaptées et ZAT ciblées. Mais vraiment organiser un dialogue commun à l'ensemble des acteurs de la consultation. Et je pense que l'entreprise qui nous avait bien inspiré sur ce point-là, c'est la Société Générale, qui avait présenté ça lors d'une rencontre organisée par le GESAT. Ils ont réussi à mettre en place des prestations de cotraitance sur des prestations informatiques. L'élément clé de leur réussite, c'était l'organisation d'un genre de table ronde, enfin de speed dating, je crois, un genre de forum où les principaux fournisseurs, enfin les principaux prestataires du secteur ordinaire rencontraient les prescripteurs et des entreprises adaptées, pour le coup, en même temps. Et du coup, visiblement, le dialogue de tous les acteurs et la mise en relation de tous les acteurs créaient une émulation sans forcément avoir besoin de parler d'obligation.
Alors, par contre, vous, en tant qu'entreprise, en tant que fournisseur, vous pouvez, dans votre démarche RSE, proposer vous-même la cotraitance. Et là, à la limite, nous, on le prend, sur un plateau d'argent sans aucune difficulté. Hein.
Oui. Oui, je voulais apporter un témoignage. Nous sommes fournisseurs depuis plusieurs décennies. Pardon, merci. Nous sommes fournisseurs depuis Papillon Blanc du Cambrésis. Nous sommes fournisseurs depuis plusieurs décennies de la SNCF en pièces mécaniques, mais je voulais apporter au-delà de la cotraitance, si vous voulez, une expérience que nous avons faite avec la SNCF, qui est la mise à disposition d'un ingénieur comme vous avez fait pour une norme 15085, si j'ai bonne mémoire, qui nous a permis aussi d'accéder à de nouveaux marchés de SNCF grâce à cette mise d'un ingénieur qui nous a élevé, j'allais dire, au-delà de la norme 9001,
nous a permis d'obtenir cette norme qui permet d'accéder aussi à d'autres marchés. Donc c'est aussi une collaboration que je trouve très solidaire et active au-delà, j'allais dire, des rapports dans les achats.
C'est
dans la démarche de mécénat de compétences. Alors moi, j'exprimais tout à l'heure que moi, je fais des sessions pour expliquer aux entreprises, mais bien évidemment, dans ce cadre de mécénat de compétences, SNCF aujourd'hui compte 1000 parrains, d'accord ? Et en tant qu'entreprise adaptée, sous statut associatif, voilà, entreprise adaptée, sous statut associatif, vous pouvez aller poster des besoins en termes d'accompagnement sur tout type, effectivement, d'activité. Et là, nous avions choisi, cette norme EN15095, qui est une norme de soudure ferroviaire, puisque, bon, la France est championne de normes, on nous en crée régulièrement. Et pour rester au panel fournisseur, il faut que les entreprises, effectivement, aujourd'hui de soudure, en l'occurrence, aient cette norme. Et on a souhaité conserver des entreprises du secteur protégé adapté, sur ce type d'activité. Donc, il a fallu les accompagner. Et on a accompagné quelques entreprises sur ce sujet-là. Voilà.
Bon, écoutez, merci. Merci à beaucoup. Tous. Et puis peut-être à une prochaine table ronde dans l'après-midi. Oui. Voilà. Merci.